Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau.
Très bon début de semaine et comme chaque lundi, c'est votre rendez-vous avec les avocats du barreau de Bordeaux, représenté ce matin par Maître Sophie Parano. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur.
Merci beaucoup, avocate spécialisée en droit du travail. Et on va parler ce matin, c'est vrai que les grandes vacances approchent à grands pas et on est souvent en train de s'organiser dans nos entreprises, dans nos différents services pour essayer de baliser qui fait quoi, qui part, qui reste. Tu veux juillet, tu veux le mois d'août, on n'arrive pas à s'organiser. Justement, quels sont vos droits et vos obligations en matière de congés payés? Vous posez toutes vos questions à Maître Sophie Parano ce matin.
France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux.
Et on va tout d'abord rappeler ce que dit la loi dans ses grandes lignes en matière de congés payés. Ça date de 1936, hein, les premiers congés payés à l'époque, c'est le Front Populaire et les Français bénéficient de 2 semaines de vacances en 1936. Véritable révolution à l'époque. Hein.
Oui, une grande révolution et puis peu à peu, le nombre de semaines de congés a évolué pour atteindre 5 semaines maintenant.
Mmh. Il y a eu les lois Aubry sur la réduction du temps de travail également, qui donnait, ouvrait droit à des réductions, les fameuses RTT.
Alors,
là,
oui.
C'est 98, je crois, ou 99.
Oui, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des congés payés.
Oui.
C'est simplement un temps de repos accordé parce qu'on a travaillé un certain temps.
Parfois, pour ceux qui ont, ou celles qui ont la chance d'avoir de bénéficier de RTT, on peut aussi grouper 5 jours de RTT, ce qui nous fait une semaine de congés supplémentaires.
Par exemple. C'est encore du repos, c'est des sources de repos qui sont multiples.
Dans cette petite histoire des congés payés depuis 1936, le code du travail et tous les articles qui régissent ces problématiques de congés payés, c'est devenu très très technique, très compliqué. Hein.
Oui.
Peut-être. Alors, pour moi, vous êtes avocate spécialisée en droit du travail, vous maîtrisez. C'est quand même très très difficile pour un salarié de s'y retrouver.
Alors, il y a des règles qui sont compliquées. Il faut partir du principe que c'est 5 semaines, hein, qu'on soit à temps partiel ou à temps complet. Souvent, il y a une confusion là-dessus.
Mm-hmm.
Ces 5 semaines après, c'est le décompte parfois qui va poser problème, parce qu'on décompte soit en jour ouvré, soit en jour ouvrable. Mais quelle que soit la méthode que l'on retienne, le résultat doit être le même. Après, il va y avoir des règles spécifiques, à savoir si un jour, par exemple, un jour férié qui n'est pas travaillé habituellement dans l'entreprise tombe pendant les congés, on est désavantagé par rapport aux collègues. Est-ce qu'on a le droit de rattraper ce jour férié ultérieurement?
Oui. Ça peut se complexifier rapidement.
Voilà. Donc voilà. Et puis il y a l'organisation des congés qui est souvent la préparation en amont qui peut poser quelques petites difficultés.
Mais justement, question, et vous nous appelez si c'est votre cas, vous avez des difficultés, des questions à poser sur comment prendre ces fameux congés payés, les droits, les devoirs également des salariés et des employeurs. 05 56 19 10 10, il y a Agnès à Bordeaux, Maître Parano qui nous écrit, qui nous dit: difficile de s'organiser dans les dates de départ dans ma boîte. Alors, c'est ce qu'on disait en début d'émission, entre ceux qui veulent absolument partir en juillet et ceux qui veulent avoir le mois d'août. La question d'Agnès, elle est simple: est-ce que mon patron peut m'imposer une période de date de congé, dire à un salarié, toi ce sera au mois de juillet et pas au mois d'août?
Oui, mais à condition qu'il applique les mêmes règles de détermination de départ à tous les salariés de l'entreprise. Il ne peut pas décider, sans aucun critère, que telle ou telle personne ne partira qu'à telle date. Il faut prendre en compte, notamment, les critères familiaux, les contraintes familiales. Lorsqu'il y a des enfants qui sont scolarisés, il est bien évident que les personnes qui ont des enfants scolarisés vont être prioritaires sur des périodes scolaires par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants à charge.
Ou des difficultés de garde d'enfants pendant les vacances, du style j'ai du centre aéré en juillet mais j'en ai pas en août.
Voilà. Ça peut être une... Le but, c'est de prendre en compte toutes les contraintes des uns et des autres, aussi les dates de congé du conjoint. Il y a des paramètres à prendre en compte et ensuite il faut arbitrer. Alors, il se peut que tous les vœux ne soient pas complètement satisfaits. On fait en sorte, normalement, s'il y a une égalité de traitement, qui est quand même un principe en droit, s'il y a une égalité de traitement, l'année suivante, on va pouvoir éventuellement accorder juillet à l'un qui l'avait eu août l'année précédente, et inversement.
Mais alors, pour répondre à Agnès, est-ce que mon patron peut m'imposer des dates de congé? Réponse oui.
Oui,
si nécessité de service.
Oui, si nécessité de service. Oui, si les critères déterminent cet ordre de départ-là.
Jean-Philippe Acestas qui lui nous dit, je ne prends, alors là il simplifie la problématique, il nous dit je ne prends jamais mes vacances en juillet ou en août mais de façon décalée. Et Jean-Philippe qui nous dit, ma question concerne les jours de congé ou de RTT non pris par un salarié. Ces jours peuvent-ils être payés par mon employeur ou est-ce qu'on doit forcément les prendre?
Alors, qu'on ne prenne pas ses vacances en juillet ou en août, c'est un droit, c'est possible. Ce qu'on appelle la période légale de prise de congé payé, c'est 1er mai 30 octobre. Donc, entre le 1er mai et 30 octobre, on doit prendre au moins 12 jours. On doit prendre 12 et 24 jours de continu. Mmh. Donc, il peut partir en juin, il peut partir en septembre. Après, s'il demeure des jours qui, en fin de période, la période, c'est 1er juin, 31 mai. On compte en décalé de cette manière-là.
C'est pourquoi comme ça, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on ne compte pas directement du 1er janvier au 31? Enfin voilà, je ne sais pas, sur une année complète.
Ça, je vous avoue. Alors, les entreprises peuvent choisir, par accord d'entreprise interne, d'avoir une autre période de référence. Hein.
D'accord.
C'est tout à fait possible, okay. On peut procéder autrement. Bon. Mais bon, à la fin de la période, si tous les congés n'ont pas été pris, et tous les RTT, il faut poser la question pourquoi ils n'ont pas été pris. Parce qu'il y a une obligation qui est que l'employeur doit veiller à ce que tous les repos, que ce soit congé, RTT, soit pris de manière effective. C'est la responsabilité de l'employeur de l'organiser. S'il ne l'organise pas correctement, s'il ne force pas finalement ses salariés à prendre les congés, c'est lui qui en est responsable. Donc ces jours, ils restent acquis. Ils peuvent être reportés sur la période suivante.
Oui, ou certains les capitalisent entre guillemets sur des comptes spéciaux, des journées.
Il existe aussi dans certaines entreprises des comptes qui permettent d'accumuler certains congés pour finalement un projet particulier.
Un voyage de 2 mois.
Un voyage de 2 mois. Ouais. Mais ça, le compte épargne-temps, il est instauré dans l'entreprise, souvent par accord. Donc il y a des règles aussi qui s'appliquent dans ce cas-là.
Voilà pour Jean-Philippe. Et attention, vous parlez de règles. Les règles, est-ce qu'elles sont les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise? C'est plus compliqué dans une petite entreprise de 3 ou 4 personnes que dans un gros groupe où on est 50 ou 100.
Mais non, les règles
Les règles s'appliquent de la même manière, quelle que soit la taille?
Ce sont toujours les mêmes règles. Après, dans les grandes entreprises, généralement, on va avoir un comité social et économique, des élus du personnel, avec lesquels il est déterminé tous les ans les critères d'ordre de départ en congé payé, les périodes de congé payé.
France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h.
Ouais, pas toujours facile de s'organiser dans cette période là, début du mois de mai, on commence à réagir avec l'approche de l'été, il faut s'organiser pour qui part en vacances, qui part en juillet, comment ça marche. Marco à Talence qui nous dit, maître, quel délai doit respecter mon patron pour me répondre s'il accepte ou s'il refuse ma demande de congé?
Alors, le délai de réponse va dépendre aussi du délai dans lequel on a présenté la demande. Voilà. Normalement, si on fait bien les choses, la demande doit être faite au moins 2 mois à l'avance. Ce qui laisse...
Bon, là, on est à peu près dans les temps, là.
Non. Alors, si on commence à penser maintenant aux vacances de juillet, août, normalement, on est en retard.
On est un peu en retard.
Il faut commencer à y penser, j'ai envie de dire, en février, en mars, puisque en mars, l'employeur, le 1er mars, normalement, doit interpeller tous les salariés pour connaître leurs désirs.
Leur souhait, ouais.
De manière à pouvoir leur répondre... on va dire entre le 1er mai et le 1er juin, et au plus tard le 1er juin, puisque si les vacances, si on parle des vacances seulement de juillet et août, hein, on va parler que de cela, l'employeur ne peut plus modifier les dates de vacances un mois avant le départ. Donc si on est au 1er juillet, au plus tard le 1er juin. Et après, on ne peut plus les modifier,
d'accord,
sauf circonstances exceptionnelles, dramatiques. Mais normalement, on ne peut pas modifier.
C'est figé, d'accord. Ouais. Est-ce qu'un employeur a le droit de me refuser de prendre un congé sans solde pour convenance personnelle?
Oui. Oui. Il peut, parce que il y a des nécessités de service. La problématique, c'est pas seulement la contrepartie, le versement du salaire. C'est l'organisation du travail et savoir s'il va y avoir une perturbation ou non dans l'organisation du travail.
Oui, donc là, le congé sans... Oui, on comprend aujourd'hui pourquoi c'est finalement si peu souvent accordé. Hein.
Bah, c'est très peu souvent accordé. Bah, c'est peu demandé, tout de même, parce qu'il n'y a pas de contrepartie financière. Et puis, ce n'est pas accordé... il n'y a pas de règle pour l'accorder. Alors après, vous avez d'autres dispositifs qui existent, qui sont les congés sabbatiques, qui sont prévus par le Code du travail. Mais là aussi, il faut s'organiser
bien avant.
Il y a des possibilités de faire du congé sabbatique, mais il faut véritablement s'organiser en amont. C'est toujours l'organisation qui compte.
Bon, Maître Parrainot, vous êtes venu avec votre Code du travail qui est de plus en plus épais. Le 13 septembre 2023, la Cour, on va parler de jurisprudence, la Cour de cassation a rendu une série d'arrêts importants. Alors, je vais tenter de résumer dans lesquels elle fait une application du droit européen en matière de congés payés, tout en écartant ce que nous disait le droit français. Qu'est-ce qui a changé le 13 septembre l'année dernière ?
Ce qui a changé, c'est que la Cour de cassation a rappelé que depuis 2009, il y avait une réglementation européenne qui aurait dû s'appliquer depuis tout ce temps-là, et que au niveau de la France, le nécessaire n'a pas été fait pour transposer ces règles européennes dans le droit français, pour adapter.
Quelles étaient ces règles en question ?
Ces règles, c'est que même en cas d'arrêt maladie, que ce soit professionnel ou non, le salarié acquiert des droits à congés payés à prendre ultérieurement.
En cas de donc arrêt maladie, d'accident aussi ?
Accident du travail, accident du travail, maladie professionnelle, mais aussi arrêt de travail, on va dire classique, sans rapport avec une origine professionnelle.
Alors, on comprend les employeurs, donc puisque cette nouvelle législation fait que l'employeur ne peut pas limiter, je crois, à un an l'indemnité compensatrice de congés payés. Donc c'est finalement une législation qui est plus favorable aux employés qu'aux employeurs.
Oui, qui est
plus
favorable.
C'est pour ça que c'était compliqué de la faire entrer en application.
C'était pas compliqué. Techniquement, ce n'était pas compliqué. C'était, j'ai envie de dire, mentalement. c'était plus ça. En fait, autrefois, quand vous étiez en arrêt maladie, vous n'aviez pas de congé payé pendant cette période-là. Quand vous étiez en accident du travail ou maladie professionnelle, plus d'un an, vous continuez à acquérir des congés payés, mais dans la limite d'un an. Désormais, il n'y a plus de limite de un an ou de quoi que ce soit. Il n'y a plus de distinction entre l'origine de l'arrêt ou non, seulement sur un point. En cas d'origine professionnelle, on continue à acquérir des congés à raison de donc 30 jours ouvrables par an. Si on est en maladie simple, c'est 24, parce que 24, c'est la limite européenne.
Donc ça y est, c'est entré en application dans l'ensemble des pays de la communauté européenne.
Alors, dans l'ensemble des pays, je n'en sais rien, mais en tout cas en France, la loi de transposition a enfin été votée.
Bien, voilà les changements depuis le 13 septembre 2023. Les questions de vacances et de droit du travail avec Maître Sophie Parreno ce matin sur France Bleu.
France Bleu Gironde, à votre service.
Grégoire Acestas, mais vous avez brièvement répondu. Les salariés à temps partiel, nous dit Grégoire, est-ce qu'ils ont les mêmes droits que ceux qui travaillent à temps complet ?
Oui. Mais c'est vrai que la question est souvent posée.
Donc on n'a pas de vacances à temps partiel.
On a 30 jours par an ouvrables ou 25 jours ouvrés. Ce sont les mêmes. C'est juste le mode de décompte qui va être différent. Mais que l'on travaille 7 heures par jour ou 2 heures par jour, une journée de congé est une journée de congé.
Emmanuel à Pessac qui nous écrit sur Facebook. Merci pour vos messages. Et qui nous dit, Emmanuel, est-ce que mon employeur peut exiger le fractionnement de mes congés ? Première question d'Emmanuel, et qui nous dit, si je suis malade pendant mes jours de vacances, est-ce que j'ai le droit de les reporter ?
Deux choses différentes. Commencer peut-être par la maladie, puisqu'on y était avec le droit européen. L'esprit du droit européen, c'est de dire un arrêt de travail, ce n'est pas du repos. Et les congés payés sont du repos. Donc il ne faut pas confondre les deux périodes. Si vous êtes malade avant de partir en vacances, normalement vous pouvez reporter vos congés. Ce qui reste en suspens, c'est si je suis malade
pendant mes vacances.
Pour l'instant, le droit français estime que vos congés payés ne sont pas reportés. L'influence de la jurisprudence européenne pourrait conduire à une autre solution assez prochainement.
D'accord. Emmanuel, sur la seconde partie, alors là, c'est une question qui est assez technique. Ces fameux jours de fractionnement, vous allez nous rappeler comment ça marche. Et Emmanuel qui nous dit, est-ce que mon employeur peut exiger le fractionnement de mes congés ? Alors, qui dit fractionnement ouvre droit finalement des congés supplémentaires, si j'ai tout compris. Là aussi, c'est très complexe.
Oui, c'est très complexe. Il nous faut se munir d'un papier, d'un crayon. On commence.
Je note.
Donc, période légale de congés payés, c'est 1er mai, 30 octobre. Durant cette période, tout salarié doit prendre entre 12 et 24 jours de manière continue. Si le salarié prend moins de 24 jours, cela veut dire qu'il lui reste entre le 1er novembre et donc le 30 avril des congés qu'on doit dire fractionnés. Donc, à partir de là, ces 12 jours sur le congé principal plus la cinquième semaine vont être reportés, on va dire, sur la période automne-hiver.
Bon, si je vous suis, là, j'ai pas pris le nombre de jours maximum.
Vous n'avez pas pris le nombre de jours maximum. Vous êtes dans le fractionnement. Il y a aucun...
Pourtant, fractionner, ça voudrait dire prendre une semaine de vacances en juillet et deux semaines en août.
Ça veut dire ne pas prendre 24 jours continus en juillet, dans la période légale. Dans la période légale. Voilà. Donc après, en fonction du nombre de jours qui vous restent, le Code du travail prévoit un nombre de jours de fractionnement qui vous est accordée en fonction du nombre de jours qui vous reste à prendre finalement sur le reste de la période. Tout ça, c'est réglementé, c'est pas...
Ok, Anne-Marie Alenton, on arrive au bout de l'émission, il nous reste à peine 2 minutes, qui nous dit « Je suis en conflit avec mes patrons qui vont me licencier à la fin du mois de juin. Est-ce que je peux poser des congés payés pendant ma période de préavis ?»
Avec leur accord, uniquement avec leur accord, puisque là, j'indiquais tout à l'heure qu'il fallait un délai au moins d'un mois, 2 mois, pour pouvoir s'organiser. Voilà, s'ils sont d'accord, ce sera possible.
Bon, il faut se parler. Et puis on termine, dernier SOS de Béatrice à Bordeaux, qui nous dit, Maître Parano, est-ce que je peux réclamer des droits aux congés payés au titre des années précédentes durant lesquelles j'ai été en arrêt de travail ?
Oui.
Que dit la loi ?
La réponse,
bonne
oui.
Bonne réponse.
Bonne réponse, ouais. Oui.
Bonne nouvelle.
Oui, mais alors après, il va y avoir des limites, des prescriptions, 2 ans, 3 ans. Il faut faire le point maintenant sur quelles années sont concernées et si la personne est toujours en poste ou non.
Bien, et on conseille évidemment, dans tous ces cas, toutes ces questions qui sont très techniques, de se rapprocher d'un avocat spécialisé en droit du travail. Ils sont nombreux en Gironde à pouvoir justement vous recevoir.
Et réunis au sein de l'Institut du droit social, l'IDS.
Voilà, que vous représentez ce matin au sein du barreau de Bordeaux. Merci Maître Sophie Parano. Vous avez posé vos vacances quand, en juillet ou en août ?
Les deux.
Merci Maître, à bientôt.
Merci à vous.
Beaucoup, 9h53 dans un instant. Tous en cuisine sur France Bleu Gironde avec Chef Jésus Hurtado, juste après les infos de 10h.
À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde, du lundi au vendredi, de 9h à 10h.